la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
C'est la chronique Je lire sur JetFM. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vraie chronique Je lire à cause d'une mauvaise crève, d'un mauvais rhume, qui encombre d'ailleurs encore un peu ma gorge. Mais j'espère ne pas tousser pour cette chronique qui rassemble quelques livres un peu disparates lus ces derniers temps et qui m'ont fortement marqué. Je commence avec une très belle bande dessinée de Marie Boisson baptisée Bianca et la forêt des parents égarés. Une nouveauté des excellentes éditions Misma dont je parle assez souvent ici. Le livre apparu au milieu du mois de novembre. C'est un livre qui fait 192 pages en couleur, qui coûte 24 euros dans une très belle façon avec une couverture toilée et une sorte de lettrage gaufré avec en plus un aplat de couleurs et de dessins. Un livre très subtil, très délicat de cette jeune autrice dont c'est le premier ouvrage de bande dessinée. Elle avait jusque-là publié un album jeunesse aux éditions du Rouergue. Et c'est pour ma part une découverte et une très belle découverte. Alors de quoi s'agit-il? Presque tout est dans le titre. Bianca et la forêt des parents égarés. C'est très beau, c'est très poétique, c'est très psychanalytique, introspectif. Forcément un peu traumatique, en même temps un peu fantastique et étonnant. Rien que dans ce titre. Bianca, c'est donc le personnage principal que nous suivons, une jeune fille, une jeune femme rousse, qui semble évoluer dans une société contemporaine, classique, qui grandit auprès de sa tante et de son cousin, près de qui elle trouve assez facilement refuge, car c'est quelqu'un qui l'amène vers un peu plus de hauteur intellectuelle et spirituelle. Mais très vite, l'univers de Bianca se décale. Elle est en recherche de ses parents, qui ont mystérieusement disparu à l'orée des années 2000. Et elle va, comme Alice chez Lewis Carroll, plonger dans un univers particulier. L'univers un peu kafkaïen aussi, un peu fantasmagorique, un peu étonnant et un peu oppressant de la recherche, tout d'abord administrative et puis finalement introspective et presque psychanalytique, la recherche de ses parents. Et ça va l'amener dans des contrées, dans des sphères et dans des relations et des rencontres tout à fait étonnantes au fur et à mesure des pages, pleines de couleurs, donc des couleurs plutôt douces, à l'exception de quelques éclats, notamment certains jaunes qui sortent de la page. Et puis un dessin un peu schématique, assez économe, qui n'est pas sans me rappeler la grande force des premiers ouvrages de Claire Brault chez l'association il y a quelques années, notamment Mambo ou encore Alma. Il y a une forme de liberté dans la narration et dans la construction des pages et dans le langage de la bande dessinée chez Marie Boisson qui fait beaucoup de bien et qui rafraîchit encore une fois ce médium s'il était besoin. En tout cas qui ouvre une nouvelle voie et une belle perspective et une autrice qu'on a très très envie de suivre sur ses prochains ouvrages. Je vous laisse découvrir ce livre « Bianca et la forêt des parents égarés ». Je ne voudrais pas en dire trop car il y a beaucoup de surprises dedans. Et c'est à la fois drôle, surprenant, on s'y perd parfois, mais aussi c'est très profond et peut-être beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît de prime abord. Ça coûte 24 euros pour 192 pages en couleur, donc « Bianca et la forêt des parents égarés » de Marie Boisson aux éditions Misma. Et je ne sais pas si son récit comporte une part d'autobiographie, mais j'ai lu en bande dessinée un autre récit, cette fois directement autobiographique, que j'avais dans mes étagères depuis quelque temps, mais que je n'avais toujours pas lu. C'est le magnifique ouvrage en trois volets de Shigeru Mizuki, baptisé « Vie de Mizuki », une autobiographie très directe donc pour ce grand auteur japonais décédé il y a peu de temps, à l'âge de 93 ans, et qui a une vie tout à fait étonnante. Ce sont les éditions Cornelius qui ont publié ces trois gros volumes. Le premier s'intitule « L'enfant », le deuxième « Le survivant » et le troisième, l'apprenti. Vous comprendrez donc, à travers juste ces trois titres, de quoi il s'agit, de quelle part autobiographique il s'agit. Alors notamment dans la deuxième partie, dans Le survivant, qui documente tout son rapport à la guerre du Pacifique, à la guerre au Japon pendant la période 1939-1945, guerre contre les États-Unis qui a été très 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 sanglante évidemment, et à laquelle Mizuki a participé plus qu'il ne le souhaitait, puisqu'il a été enrôlé comme à peu près tous les jeunes gens de sa génération. et qu'il y a même perdu un bras dans cette guerre, il a documenté déjà dans un récit baptisé « Opération Mort » une partie de l'aberration totale de cette folie de la guerre et notamment de la manière d'obéir aux ordres et de garder l'honneur, sauf quand on est en état de guerre, et surtout peut-être quand on est dans une certaine mentalité japonaise de cette époque. Et bien dans ce récit autobiographique, il revient, il reprend des éléments qu'il a disséminés ça ou là dans son œuvre auparavant, et il remet tout cela en perspective sur une continuité depuis donc sa naissance jusqu'au début des années 2000, au moment où il rédige ces pages de bande dessinée qui sont brillamment dessinées, qui sont à la fois parfois complètement caricaturales et grotesques, et à d'autres moments extrêmement minutieuses et réalistes, avec des hachures et des moments qui sont presque comme des gravures, qui pourrait rappeler aussi certains travaux de dessinateurs contemporains occidentaux, tels Nilsson par exemple. Et puis il y a d'autres approches graphiques qui chaque fois permettent, par le langage de la bande dessinée, de toucher au plus près de ce que ressent Shigeru Mizuki, qui est un personnage et une personne tout à fait étonnante, tel qu'on le découvre en tout cas dans cette autobiographie. Puisque justement il sort assez volontiers, et c'est ce qu'il relate dans son récit, de la réserve habituelle qu'on peut coller comme un cliché aux personnes qui vivent au Japon, et notamment dans les années 40 et 50. Il semble être un trublion que les gens ont du mal à canaliser depuis son enfance et jusqu'à sa vieillesse même, puisqu'il n'est jamais vraiment là où on l'attend. Et son autobiographie est tout sauf complaisante et absolument sans concession aucune, ni avec son entourage ou avec la société japonaise, ni avec lui-même et en premier lieu. C'est vraiment une belle lecture, assez addictive, et puis on apprend énormément de choses sur l'histoire contemporaine japonaise, en tout cas sur la deuxième partie du XXe siècle au Japon. Ça s'appelle « Vie de Mizuki », c'est publié chez Cornelius et toujours disponible en trois volets qui valent largement le détour. Et peut-être comme un hasard, j'enchaîne deux récits de guerre, puisque j'ai retrouvé un livre de Henri Calais, baptisé « Le Bouquet », publié chez Gallimard, dans la collection L'Imaginaire, livre que j'avais offert à ma grand-mère il y a pas mal de temps, à Noël 2004 exactement, il y a presque 20 ans. J'ai beaucoup d'affection pour Henri Calais et pour son écriture, alors pas forcément à cause de son prénom, encore que, d'ailleurs c'est un pseudonyme, mais parce que son écriture m'a toujours bouleversé à plein d'endroits. C'est quelqu'un qui sait très très justement écrire et décrire les comportements contemporains, les comportements de ses contemporains, puisqu'il est né à l'orée du XXe siècle et qu'il est mort en 1955. Et c'est quelqu'un qui a vécu pas bien longtemps, 56 ans, mais suffisamment pour vivre quelques atrocités. D'abord un premier déplacement pendant la Première Guerre mondiale quand il était encore enfant, et puis une participation pleine et entière à la Seconde Guerre mondiale en France. Il a été prisonnier de guerre et il en a tiré quelques récits vraiment puissants et étonnants sur la manière dont la situation, l'état même de l'être humain peut bouger en conditions de guerre et comment une défaite peut abîmer profondément les personnes qui sont partie prenante de cette défaite. C'est le cas de ce livre, Le Bouquet, qu'il a écrit en 1942 et qu'il a fait publier à la fin de l'année 1944. Henri Calais est donc prisonnier de guerre à ce moment-là. En 1940, il est dans la débâcle de la défaite et pendant quelques mois, il va connaître le sort des prisonniers de guerre. Le Bouquet, c'est une fausse autobiographie puisqu'il a un avatar qui s'appelle Adrien Guédamour et qui est un petit peu son alter ego puisqu'il lui prête un certain nombre de ses caractères et d'ailleurs un certain nombre de ses observations. Le livre est rédigé à la première personne et on a vraiment l'impression d'entendre parler Henri Calais. Si jamais vous avez lu d'autres livres de lui comme La Belle Lurette ou Un Grand Voyage ou encore tout son travail journalistique des années 40 et 50 qui a été rassemblé dans plusieurs volumes, notamment aux éditions Mercure de France ou chez Gallimard, eh bien vous aurez vraiment la substance de son écriture et de sa manière d'observer les gens et les autres. Je vous livre un petit exemple de sa qualité d'écriture. Un extrait de la page 30 de ce livre donc, Le Bouquet, qui en compte quelques 300. On prétend que l'existence ressemble à une sorte d'immense escalier que l'on gravit en s'essoufflant d'étage en étage. Et rien au bout de cette peine, si l'on veut. Je trouve plutôt que ça descend doucement, la vie, une glissade sans effort, pour finir devant un trou inévitable. on n'en sort pas. Cela débute à l'école communale où déjà l'on vous prend en main. Plus tard, l'atelier, le bureau, la caserne. Partout, la même odeur fadasse de pierre, de poussière et d'ennui. Partout, on inculque la gentillesse et l'obéissance. Et partout, des chefs pour vous conduire. Non, vivre, ce n'est pas difficile. Cela s'apprend comme le reste. Il se présente bien parfois quelques problèmes à résoudre, des responsabilités à endosser, mais pas trop souvent. À moins d'être un sauvage, un casseur d'assiettes, une tête chaude qui préfère les déserts. Mais on choisit généralement de vivre en société, d'emprunter le droit chemin, le plus commode, le plus fréquenté aussi. De manière qu'on ne risque pas de se fourvoyer. Tout est marqué. Ce qui évite de poser des questions. On suit la foule, ça sent bon la laine, on se laisse aller. D'ailleurs, le chemin ne mène à rien. N'empêche qu'il y en a qui paraissent pressés d'arriver, qui jouent des coudes. Éparpillés, l'un ici, l'autre là, chacun dans son coin a su sauter sa vie comme un petit mégot, tranquillement, à attendre qu'on vous appelle. Un jour, il faut remplir son devoir. On y va, naturellement. Et puis un autre extrait, lors de cette fuite, cette débâcle, avant d'être fait prisonnier, avec sa troupe, il marche longtemps, pour s'enfuir le plus possible, le plus vers l'ouest possible. Et cette marche, finalement, chez Calais, tourne à une sorte de rêverie hypnotique. Voici la page 54. Et nous avons repris la marche. Je partage mon courage avec lui. Il ne va plus m'en rester lourd. Il faut pourtant continuer. Je suis en nage. Il faut atteindre Coulanges. Courage, Coulanges. Courage, Coulanges. Solange, ça rime. Coulanges, Solange. Il n'y a pas de vraie femme qui s'appelle Solange. Du moins, je n'en ai jamais rencontré. Dans les petits romans, peut-être. Dans les feuilletons. Mademoiselle Solange de... Un nom qui commence par un K. Une noble fille qui attend le retour de l'aimé dans son vieux castel breton. Solange, Mésange, un nom en L. Et puis, je m'en fous, Coulanges, c'est Coulanges qu'il nous faut. Oh, 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 une chanson de route, ça, ma chère Solange, virgule, j'use mon dernier courage, je m'écarte de mon idée. Il est robuste, ce râlant, je ne peux rien lui dire, je serre trop les dents, les mots ne sortent pas, Coulanges avant tout. Et après, Coulanges, je n'en sais rien. La question ne sera pas posée, vous me faites bien rire avec vos questions. Il y a un patelin qui s'appelle Coulanges la Vineuse. C'est un nom qui m'a frappé une fois sur une carte. Je me demande si c'est le même que celui où nous allons. Je n'aime pas ce nom-là, je n'aime pas le vin. Coulanges la Vinasse. Briard n'ira pas bien loin, moi non plus. Je ne sens plus mes pieds. Deux boules chaudes qui roulent sous moi, c'est comme de la fièvre qui monte des pieds, mais je sens une sorte de brûlure dans le ventre à l'endroit où les os de la cuisse s'emboîtent, le fémur. J'ai le fémur bien trop dur. C'est la chanson de Bidas. Je ne sais plus comment... Elle commence. J'ai la rate qui se dilate, les genoux bien trop mous, la poitrine qui se débine, le pylore bien trop fort, le fémur bien trop dur. Ça se chante très vite. J'ai la rate qui se dilate, la barbe. J'ai le menton qui pèse un poids de pierre. J'ai l'âme à la retourne. Je n'entends pas mes pas, pas mes pas. J'entends mon cœur qui bat, qui bat, qui bat. Je ne suis plus fatigué du tout. J'ai comme quitté la route. J'ai un bruit assourdi aux tempes, un tic-tac de pendule, assez lent. Une, deux. L'homme est une machine. Il faut arriver à ce village qui a un nom de femme. Question de volonté, d'énergie. J'ai reçu un prix à l'école qui s'intitule « Le triomphe de l'énergie morale ». Un beau prix rouge et or que je n'ai jamais lu. Ma mère l'a exposé longtemps sur la cheminée. Elle le montrait aux connaissances. Elle était fière de son fils. « Récite le naufragé », qu'elle me disait toujours. Elle soulignait pour les gens 152 vers par cœur. Je commençais « Le naufragé » de François Copé. Maintenant, je ne m'en souviens plus. Tandis que sous moi ses flancs ronflaient comme une forge, je lui plongeais trois fois mon couteau dans la gorge. J'avais tué mon seul et mon premier ami. C'est l'histoire d'un mousse qui tue son chien. Qu'est-ce que ça veut dire, énergie morale? Est-ce qu'il y a un autre genre d'énergie? J'ai de l'énergie morale. Il y a l'énergie hydraulique, aucun rapport. L'énergie de fer. J'ai une énergie morale de fer, ma chère Coulanges. Je vais mourir épuisé de fatigue, crevé, et je perds mon dernier courage par tous les trous. J'avancerai encore jusqu'au bout, dans ce blanc de lune. Je débloque à plein tuyau, je délire, je déconne. Je vais vous interpréter ma connerie aux grandes orgues. Quel drôle de goût j'ai sur la langue, aigre et âcre. Qu'est-ce que c'est? un goût de rhubarbe, la confiture que je n'aimais pas en pension. Un petit extrait de Le Bouquet de Henri Calais, aux éditions Gallimard dans les collections L'Imaginaire, roman fort, recommandable. Henri Calais est fort, recommandable. Écoutons Pierre Barou pour finir cette chronique.
Ils étaient deux gamins parlant de l'avenir, les yeux écarquillés sur l'horizon immense des joies qu'ils prolongeaient jusqu'à n'en plus finir en des rêves éblouis, ponctués de silence. Leur merveilleux voyage, s'ils n'avaient pas de fin, s'en revenait toujours, flânait dans les guinguettes et leur propos alors paraissait un refrain tout prononçant ces mots. Ils partaient en goguette, nous les ferons danser, les filles du dimanche. T'en fais pas mon copain, je nous vois tous les deux dans un petit bal rieur, nous tirant par la manche. En les voyant passer, elles aussi deux par deux, pour l'instant il nous faut bûcher l'histoire de France. Tant pis si l'on oublie de nous donner des prix sur les bancs de l'école, nos projets de vacances. Nous ferons patienter jusqu'à ces jours fleuris. Mais ces belles années, mon Dieu, comme elles vont, et le temps écoulé, comme elles semblent brèves. Ainsi les gosses un jour, à la belle saison, virent qu'il y avait loin, loin de la coupe aux rêves. Ils eurent à leurs 20 ans, en guise de cadeau, ce qu'on donne aux enfants qui s'en vont faire la guerre. Et c'est tout en marchant, le fusil sur le dos, qu'ils se disaient tout bas, tout comme une prière, nous les ferons danser, les filles du dimanche. T'en fais pas mon copain, je nous vois tous les deux dans un petit bal rieur, nous tirant par la manche. En les voyant passer, elles aussi deux par deux, pour l'instant il nous faut bâtir l'histoire de France. Comme d'autres avant nous s'y sont mis tant de fois, pour couvrir le canon notre belle espérance, pour à tout à loisir en donner de la voix. Ensemble ils sont partis, un seul est revenu, qui ne pourra jamais chasser de sa mémoire ni le bruit du fusil, ni la plainte éperdue de son copain tombé bêtement et sans gloire. Il reverra toujours l'expression de ses yeux, ce regard incrédule, cette immense détresse, lorsque penché sur lui pour un dernier adieu, il lui disait tout bas ces mots de leur jeunesse. Nous les ferons danser, les filles du dimanche. T'en fais pas mon copain, je nous vois tous les deux dans un petit bal rieur, nous tirant par la manche. En les voyant passer, elles aussi deux par deux, t'en fais pas mon copain, les beaux jours